c'est reparti pour notre suite d'aventure sur les pavillons noirs avec mon scénario Everrain. Nous sommes à la troisième partie, si je compte bien. Il s'est passé quelques aventures un peu étonnantes sur votre périple pour aller au nouveau continent. Vous avez effectivement, après, plus de vent, plus de courant marin, des baleines qui ont peur, qui fuient un endroit, puis un nuage qui se forme à l'horizon, une grande bourrasque d'air, des courants marins qui reviennent mais dans une seule direction, qui vous amène à travers une forêt de pics qui va de bout en bout de l'horizon, telle une muraille de pics entre lesquels vous arrivez à sillonner jusqu'à passer une sorte de cascade de mer qui vous a fait faire une petite chute et vous ramène dans des flots que vous connaissez, un courant normal, du vent. Le ciel est couvert, il y a ces nuages gris toujours avec cette petite pluie qui tombe, qui d'ailleurs ces nuages qui semblent venir du fond de cette cascade, qui remonte, ces nuages qui remontent au ciel. Les marins sont un peu sous le choc après justement cette chute, après tout ce qui vient de se passer ces trois derniers jours. Mais d'une certaine manière, vous êtes rassurés de retrouver la mer que vous connaissez à peu près.
Notre emplacement d'avant et le passage à la cascade et tout, est-ce que le mur de pic est derrière nous, c'est-à-dire côté vieux continent, ou est-ce qu'il nous barre l'accès au nouveau continent?
Il va falloir aller voir la navigatrice pour lui poser la question. Je fais juste une petite pause par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je savais pas trop comment l'introduire. Le second, qui est un proche du capitaine, qui connaît un peu les plans, connaît quelque chose en plus par rapport à la mission que le reste de l'équipage ne connaît pas et ne doit pas connaître. C'est effectivement le fait de devoir amener ces deux personnages spéciaux jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Ce n'est pas simplement pour récupérer n'importe quelle babiole là-bas, c'est pour peut-être trouver des trésors. Effectivement, la famille de cette noble, la famille des comtes de Loradour, a mis la main sur une clé permettant de rentrer dans une possible cité dans laquelle il y aurait des trésors. C'est le travail de l'historien d'essayer de rassembler toutes ces informations. Il faudrait discuter avec l'historien pour en savoir plus, peut-être. Ça n'empêche qu'effectivement, l'historien travaille activement sur cette clé. Et il est vrai que, par exemple, le quartier maître a entendu parler de marins qui... Parce que même s'ils ne viennent pas lui parler pour tous les sujets, elle est quand même dans la même messe que les gabiers, donc peut entendre les discussions. Et certains marins, en passant pas loin de la chambre de ce bibliothécaire, de cet historien, l'ont vu étudier une sorte de cercle en or. Et donc toutes ces informations peuvent se rapprocher. Il faudrait creuser plus pour en savoir davantage. Ça n'empêche que c'est effectivement que le second qui connaît le fin mot de cette mission. Il faudrait ramener effectivement ces trésors. Mais ceci serait dit à l'équipage si jamais il y a trésor, pour éviter qu'ils se sentent dupés ou quoi que ce soit.
Ouais, ok.
Voilà. On peut reprendre du coup l'aventure où nous l'avons laissée, c'est-à-dire avec une muraille de pics derrière nous, enfin même plus qu'une muraille de pics, c'est le fond de l'océan qui s'est brisé dans un mur avec une cascade. Vous pouvez reprendre le cap que vous avez décidé pour essayer de vous diriger vers votre destination. Il faudrait par contre voir avec le pilote si il est toujours possible d'aller là où vous avez prévu d'aller.
Du coup, on est où là? Est-ce que le mur est devant nous ou derrière nous? Est-ce qu'on peut arriver à bon port?
Vous voyez, le pilote travaille principalement dans la salle du capitaine. C'est là où il y a les cartes, c'est un grand bureau, c'est là où il y a des réunions souvent. Il y a une carte étendue avec la mer des Caraïbes et elle a essayé de redessiner à peu près des emplacements. Tu vois qu'il y a des blocs qui ont été disposés sûrement pour, parce que c'est approximatif, elle ne sait pas exactement où se situent ces îles, mais elle semble avoir tracé avec une règle le mur qui pourrait être et a indiqué au capitaine. D'après ses calculs, c'est encore à confirmer, il faut qu'elle fait des allers-retours pour regarder le ciel entre les nuages, voir si elle arrive à se repérer. Mais il semblerait que le mur ne les empêche pas d'accéder à la destination voulue.
D'accord. Donc, on essaye. J'imagine que les ordres du capitaine sont, on essaye d'atteindre la destination.
Exactement. Une fois que le pilote, ça se passe pas en instantané, une fois que le pilote a fait ses tracés et a organisé ça, elle fait part au capitaine qui va tout de suite voir le second, le maître d'équipage, pour indiquer les ordres suivants de prendre le cap dans cette direction et de suivre et de se préparer pour la nuit car le vent semble être de plus en plus fort.
Ouais, donc il y a quand même toujours le risque de tempête.
Possible. Ce qui est étonnant, c'est ces nuages noirs alors qu'il n'y a pas vraiment de tempête actuellement. Mais effectivement, le vent se lève petit à petit et peut-être qu'au loin, il y aura une tempête qui va se former pendant la nuit. Ouais,
les ordres restent quand même.
On ne sait jamais.
Okay.
Il y a des hommes qui vont pas forcément bien, qui vont voir le capitaine, qui vont voir le chirurgien. Donc ça, on va faire dans un second temps. Par contre, toi, il est déjà l'heure de commencer à faire une nourriture pour 300 personnes.
Allez, c'est parti. On sort les biscuits salés.
Donc, il faut rassembler un peu tout après cette chute de navire.
Ce sera un petit crumble ce soir.
C'est ça, un crumble de biscuits secs salés.
J'ai que les biscuits secs, je les fais à toutes les sauces.
Et effectivement, il va falloir rassembler ça et se préparer. Donc je te propose de faire ton jet... Pour faire ça.
Tu me rappelles comment ça se passe ?
Exactement, donc tu vas faire un jet d'endurance, de cuisine sous résistance. Donc autant de dés que ce que tu as en cuisine.
Alors, cuisine, c'est dans quoi ?
C'est dans.
Ah oui, c'est sûr.
Elle a pas un petit commis pour
donc
les dés.
4 et résistance. 6. Donc 4 et. Ah, il me manque un. Voilà, c'est parti. Alors, un qui réussit,
un
deux qui réussit. Ça, c'est un 9 ou un 6 ? C'est un 6, on dirait. Je pense que c'est bon.
Ouais, c'est
tout réussit, pile poil.
Et même t'as,
lui,
t'as,
il est doublé.
Et lui, il est doublé.
T'as 5 réussites.
Voilà.
Okay, donc,
ça sera un crumble d'exception.
Voilà, c'est effectivement, tu peux cocher la cache cuisine.
Tout à fait.
Tu fais. Enfin, ça va te prendre du temps, mais tu ne t'épuises pas à la tâche. C'est des fois où vraiment c'est fatigant. Là,
je suis comme un poisson dans l'eau.
Là, tu es motivé pour arriver à remonter le moral de tous ces hommes qui ont eu des soucis ces derniers jours et
qui ont été mis à rude épreuve.
Exactement. Tu arrives à faire quelque chose de prodigieux, tu verras. Pendant ce temps-là, le chirurgien voit passer quelques hommes. Même si les nuages ont couvert le ciel, les gens, ça fait 2 jours qu'ils ont eu le soleil qui leur a tapé la gueule. Ils ont quand même, beaucoup sont fatigués. Certains ont des malaises, d'autres ont presque des illusions comme ce qu'a eu la personne lors de cette matinée.
Okay, ouais.
Tu croises quand même. Voilà, c'est juste pour dire, je donne pas de cas particulier, mais tu en croises. Il y a pas qu'un seul homme qui a eu des illusions ou qui a souffert de l'insolation.
Je chôme pas, quoi.
Voilà, tu dois travailler.
Bah, du coup, ce que je fais, c'est que j'indique à Tadé quels sont ceux qui vraiment ne peuvent pas se mettre en tout cas à un effort intensif. Quoi.
Très bien. Il va falloir me faire un petit jet de médecine sous perception pour arriver à déterminer effectivement quels sont les hommes que tu peux.
Voilà. Mais bien sûr. Une double réussite.
Ok, donc tu arrives à disposer quelques personnes. Voilà, tu dis ça va. Ils ont l'air de tricher un peu quand même. Ouais. La soirée arrive, la pluie tombe, les nuages se sont refermés. L'obscurité du coup vous entoure de plus en plus. La lumière de la lune a du mal à traverser les nuages. Vous voyez pas forcément bien. On allume du coup quelques lanternes et le repas peut enfin être lancé. Le capitaine se joint à l'équipage au moment du repas et quand même content de voir que les hommes ont l'air d'être passés un peu à autre chose et va voir le cuisinier. Je pense qu'on pourrait ouvrir un tonneau de rhum pour la soirée, pour vraiment gaillardir les hommes.
C'est qui me dit ça?
Le capitaine.
Ah, je peux rien refuser à mon capitaine. Non, mais écoutez, fort bien, bon...
Si les stocks le permettent.
Nous sommes encore tout à fait dans les temps, mais je ne vous conseillerais que trop d'y aller mollo, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à destination, donc très bien, mais...
Un demi-tonneau, si...
Partons sur, voilà, un demi-tonneau.
De manière...
Ça me paraît énorme, un demi-tonneau. Bon, remarque, on est nombreux.
On est quand même 300. Des corsaires, vous êtes des corsaires.
Non, mais ça nous fera du bien, je pense que ça fera du bien tout.
Je pense aussi.
Pirate dans l'âme.
Pirate par exemple.
J'imagine qu'en plus le rhum, ça peut servir.
Très viril. Voilà,
oui.
Très bien, donc le repas se passe, les gens vont un peu mieux. Bien entendu, les malades, ceux qui sont fatigués ou autres, ne participent pas au repas, il faudra leur donner après coup. Ce sera ton travail de passer après eux.
Ouais. Privé de rhum, du coup, ils sont dégoûtés.
Ouais, c'est ça. Ouais, oh, un petit peu pour eux quand même, ça soigne.
Ça ravigore.
Ah, maintenant ça va mieux. Hein,
après le repas, l'équipe du coup change, effectivement. Ceux qui étaient là deux jours vont se coucher, ceux qui dormaient montent sur le pont. Les maîtres sont un peu en décalé par contre, donc vous n'êtes pas encore à vous coucher tout de suite. C'est presque un boulot à plein temps, j'ai envie de dire. On vous réveille pour la moindre occasion, vous faites des heures sup, voilà. Le travail. Et donc du coup vous pouvez participer aux discussions, aux tours. Vous voyez que les hommes s'activent quand même. Il y a du vent, il y a de la pluie, c'est pas non plus c'est pas la fête, mais ça va mieux. Le navire avance et au bout de quelques moments, d'autres matelots semblent venir te voir en disant je pense qu'il y a encore des marins qui ont dormi aujourd'hui pourtant et qui ont des insolations. Ils ont l'air de divaguer sur le pont pour certains.
Ok.
Voilà, ben personne remonte sur le pont parce que voilà, il y avait personne pour t'envoyer le message à ce moment-là.
Est-ce qu'on est au courant, nous, là?
Voilà, ils sont allés voir directement le chirurgien, le quartier maître. Tu peux participer à des voiles ou quoi, donc peut-être que tu as entendu effectivement des marins dire
parce que... du coup, je me demande si c'est pas... Il y a peut-être un problème avec les biscuits ou quoi, tu sais...
Comment?
Non, c'est parce que je
vais tirer ta ration, toi.
C'est régalé avec les biscuits.
C'est pas ça, j'avais entendu. Parce qu'on a connu des cas d'hallucination avec l'ergot de seigle par exemple. Donc je me dis, est-ce que ça peut pas être un truc comme ça pour qu'il y ait autant de cas?
Je pourrais le déterminer.
Tu pourrais essayer de le déterminer effectivement en voyant les hommes.
Je leur demande de me
juste
conduire
un petit
à
contrôle qualité de la nourriture.
Puis, voilà.
Effectivement, c'est au moment où Tadei passe pas loin de ces hommes et vous voyez deux hommes qui sont en train de regarder par terre, qui se frottent les bras. Il y a à l'autre bout du navire, pareil, un homme qui regarde la pluie. Ils ont tous le même discours. Ils ont l'impression, écoutez, c'est surprenant, mais dans les gouttes, on dirait qu'il y a comme des morceaux de viande, des petits morceaux de viande qui nous tombent dessus, mais il n'y a rien.
Oui, bien sûr, des morceaux de viande.
Il va falloir arrêter le rhum.
Asseyez-vous, monsieur.
Un autre qui dit ça, un autre qui dit des choses gluantes qui tombent, mais il ne voit rien.
Ils sont cohérents entre eux, en fait.
Ouais. Mais là, vous savez pas, vous êtes chacun à un bout du navire, donc vous voyez un groupe, toi tu vois un groupe qui est voilà, un léger décalé. Hein.
Est-ce que moi, en tant que prêtre vaudou, ça me dit quelque chose tout ça?
Tu peux faire un jet de religion érudition.
Alors, religion vaudou 2, et j'ai 4 en érudition. Non, double réussite. Non,
triple.
3 réussites.
Ouais, triple.
Tu peux cocher. Effectivement, des morceaux de viande qui tombent sur les gens, ça ne te parle pas. Mais effectivement, ça peut rappeler certains rites où on badigeonne les personnes de sang et autres avec des morceaux, carrément des fois de chair d'animaux. Tu vois pas forcément le lien avec une malédiction ou quelque chose qui pourrait arriver là.
Ouais.
Non, c'est pas directement. C'est si effectivement c'est, vous venez à vous croiser ou vous entendez que d'autres personnes se plaignent de maux de tête, enfin voilà, donc tu, toi tu fais le tour du navire pour essayer de rassembler ça, et tu peux croiser effectivement les autres hommes qui a vu Lucrèce, qui se plaignent effectivement de ces, comme ces morceaux de viande qui tombent de la pluie. Et c'est, là, moi, ça t'interpelle qu'effectivement à deux endroits du navire,
d'accord,
les gens
mais
la même
pour autant ce genre de, d'alu, ça reste cohérent avec le diagnostic d'insolation.
Ça reste cohérent parce que c'est, la peau est presque brûlée, donc du coup t'as une sensation qui est différente.
Ok.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient la même description avec le même ressenti.
Ouais, bon, je me dis, ils ont la dalle, ils voient ce qu'ils ont envie de voir, quoi.
Peut-être, c'est. Ouais. Ça reste surprenant. Et voilà, effectivement.
On les met, on met ces hommes au repos.
Allez, encore des hommes au repos. Vous êtes à la limite, hein, parce que là, il faut gérer les voiles quand même. Ouais. C'est.
Y a un man moins à gérer.
Ouais. Moi, faut quand même le retaper ce truc. Hein.
Ouais, quand
je vais en référer de ce problème au second.
Ok.
C'est-à-dire que là, on commence à être. Si on a encore 2-3 hommes qui nous lâchent, on sera plus en état de. Enfin, ce sera compliqué de gérer une année.
Oui, bah bon, après, faudrait peut-être voir à renvoyer, travailler ceux qui sont pas vraiment dans un état trop critique quand même. Okay,
quelqu'un crie à l'entrepont. Mais c'est pas un cri de démence ou quoi que ce soit. C'est, ça a l'air d'être des propos cohérents, mais c'est assourdi par le bois. Il faut aller au niveau
cri,
des cabines.
Ça a l'air de la colère ou de la peur.
Une personne qui crie des mots, des phrases, qui ont l'air d'être cohérentes, mais qui ont du mal à être discernées à travers les cloisons.
Oui, mais le ton.
Ah,
de toute façon, on va aller voir.
Ça a l'air d'être des ordres presque. Ah. Sauf que là, il fait nuit, il n'y a pas trop d'ordre à donner, si ce n'est dans les voiles, dire de tirer tel ou tel bout.
Oui, Kenry.
Je pense que je prête un peu l'oreille à ça, parce que j'étais un peu aux aguets en cherchant des hommes plus ou moins malades. Donc, si j'entends un petit bruit de fond qui semble être décrit, je pense que je me rapproche.
Effectivement, donc tu peux te diriger vers l'entrepont. De toute façon, la personne qui crie semble remonter l'échelle. Des personnes autour crient aussi petit à petit, mais en disant « Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir le second, le maître d'équipage !» Vous voyez, effectivement, les hommes qui ne savent pas trop quoi faire. Vous reconnaissez la voix, en tout cas, de la personne qui crie à plein poumon, c'est le bibliothécaire. Vous ne l'avez pas beaucoup entendu, mais il crie, et là, vous arrivez à discerner ce qu'il crie, et il dit « Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi !» Et il ne fait que ça. Il fait « Je n'arrive pas à m'arrêter, arrêtez-moi !» Et vous voyez, il monte l'échelle, il met une main, il met l'autre, il arrive sur le pont, et vous voyez que son corps, comme s'il pesait une tonne, mais se déplace vers le bord du navire. Il vient de sortir de l'échelle, et il crie. Tout son corps se déplace vers le bord et ses yeux montrent de la peur, de la terreur.
Vous là, les trois qui sont à côté, retenez-le.
Bah, du coup, les personnes ne savent pas, ils l'empoignent, le retiennent. Et pourtant, c'est un bibliothécaire assez frêle. Et malgré ça, il avance, il arrive à les soulever. Vous voyez qu'à un moment, effectivement, il y a un homme de plus qui est bien fort, bien musclé, qui la grippe au niveau de la taille, ça le fait un peu chavirer en avant. Il met sa main sur le pont, le bibliothécaire met sa main sur le pont, et il prend appui dessus, et ça fait une empreinte de main dans le bois du pont. Il se relève, ça arrache des échardes, et il continue à avancer d'un pas lourd. On sent que son corps lutte entre essayer d'avancer et de reculer, et il ne fait que hurler de plus en plus fort, parce qu'il voit de plus en plus le bord du navire qui se rapproche.
Mais vous deux, là, prenez un cordage, encerclez-le et attachez-le.
Moi j'entends ce raffut et c'est quoi ce bordel? Et je sais pas pourquoi j'ai un accent, je suis français. Et non, parce que physiquement il ressemble un peu à la montagne dans Game of Thrones, c'est un gros bonhomme. J'ai compris que la force servait à rien, mais du coup je fonce sur lui et je lui mets une patate pour le mettre.
Là t'étais en train de tout ranger dans la cuisine, tu peux effectivement te déplacer parce que tu t'entends crier et donc ça t'a interloqué.
Okay.
Mais tu vas plutôt intervenir quand tu seras vraiment proche du bord, le temps que tu montes.
D'accord.
Dans mon attirail, j'aurais pas de quoi le sédater par exemple.
Non, il faudrait que tu descendes à l'infirmerie.
Ouais. Non, mais je veux dire, à l'infirmerie, est-ce que j'ai...
Oui, donc à l'infirmerie, si.
Alors, je crie à tout le monde, essayez de le maintenir, je vais le calmer, je vais le tranquilliser, donnez-moi le temps, je reviens, quoi. Ouais. Et je fonce.
Vous voyez, il y a maintenant, ils sont presque 10 sur lui. Il y en a un qui est en train de l'accrocher avec des cordages. Ils sont en train de monter les cordages sur un des mâts pour essayer de le soulever. Vous voyez que rien ne lui résiste. Quand à un moment, il y a un cordage qui commence à le soulever, ses mains luttent pour s'approcher du cordage, prendre le cordage et arriver à déchirer le cordage en deux à même ses mains. Il retombe au sol lourdement, les personnes tombent à côté de lui et il continue à avancer. On dirait que rien ne peut l'arrêter.
Bon, ben je regarde, je fais. Donc, ben voilà, il va sauter.
Non, mais moi je lui tire dessus.
Tu lui tires dessus, ouais, à quel
attends,
niveau
mais, ouais, voilà, ouais. Au pied peut-être.
Oui, ouais, non létal, je vise la jambe.
D'accord. Donc il se déplace tellement lentement que tu, limite tu peux poser le pistolet sur, sur sa jambe.
Paulette, ça va du travail pour toi.
C'est hyper violent. Tu tires, l'os explose, la jambe.
Oh putain, merde!
Il tombe sur son genou, ses yeux se révulsent de douleur, mais le reste du corps ne semble pas bouger face à cette douleur. Il pose ses deux mains en avant et il se tire avec ses mains et il continue à rouler.
Bah, je recharge quand même.
Les hommes essayent, ouais, ça prend du temps de recharger.
Moi, je suis pas à hauteur pour le.
Ça y est, là, t'arrives, il est presque au bord.
Mais ils étaient 10 dessus hein, déjà.
Ouais, mais un bon crochet du droit.
Tu veux l'assommer en fait ?
Ouais, je veux l'assommer, ouais.
Très bien. Tu fais un jet de combat à main nue sous force et tu as un dé en plus.
Ok. Ah ouais, combat à main nue. Ok, donc il faut que je fasse 8. Ok. Et. Du coup, c'est un dé.
Un dé 10.
Un des 10. Ok. Et c'est bon. C'est 8 la force et j'ai fait 6.
Mais t'as combien en main nue ? T'as rien ?
J'ai rien.
Ah non, mais c'est un des 10. Ça,
du coup, c'est un
des 12. Voilà, c'est un des
12. Ah ouais, mais comme je te donnais un des bonus, c'est un des 12 et un des 10. Donc t'as effectivement
donc celui-là. Ah, un des 12.
Un des 12, c'est quoi ? C'est celui-là.
Ouais.
Ouais, c'est celui-là. Et c'est un 6, c'est bon.
Ça fait 2 réussites. Donc tu donnes un bon coup. Tu es surpris de la résistance de t'as l'impression de taper comme dans la cuisse d'une jambe d'une vache. Vraiment c'est dur, c'est tendu alors que c'est une
c'est
mâchoire
normalement. C'est tout ce que ça fait.
Non mais on visualise quelque chose de dense, un peu légèrement mou quand même parce qu'il y a de la chair mais
non,
quand
mais
même
bien
matin,
dense.
Je frappe les vaches.
Alors au kit
c'est. Ouais, c'est ça.
Du coup sa tête ne bouge presque pas. Les hommes arrivent à. Enfin, le retiennent, tirent les vêtements, limite, bah, il y a sa sacoche qui s'arrache, sa chemise qui s'arrache. Un homme pointe son. C'est le maître Kalfa qui est là, qui a lui aussi un pistolet, qui pointe sur sa main et qui te croise du regard second pour voir si est-ce qu'il peut tirer, qu'est-ce qu'il fait.
Non, je suis pas revenu.
Ça va être horrible là s'il perd un deuxième membre.
Carnage.
Non.
Tu arrives, il est vraiment sur le bord, il risque de tomber.
Je lui fous de l'éther sous le nez.
D'accord. Ah ouais.
Et voilà, j'essaie de l'endormir quoi.
Ouais, alors ses yeux semblent se fermer, par contre le corps continue à avancer et il t'emporte avec lui.
Non. Non, j'essaie de rattraper.
Ouais, je rattrape Paulette aussi.
Attends, mais elle lâche, elle est pas conne quand même.
Mais non, mais
non, elle est pas conne Paulette quoi.
Il mettait sa main sur la bouche, effectivement, il peut lâcher, mais.
Bon, ok, bref.
Tu arrives me vient à être retenu par les autres pour ne pas tomber à l'eau.
Cool.
Ok, ça va. Il me vient un truc à l'esprit. Il est sorti de quelque part comme ça là.
Il est descendu de l'entrepont de la cabine où il était.
De la cabine où il était.
Il est tombé là.
Il tombe.
Alors, du coup, il me vient l'idée d'aller voir dans sa cabine, je sais pas, peut-être s'il a pris un truc, une drogue, un machin.
Là, la priorité serait peut-être d'aller le récupérer.
Je vous laisse le gérer parce que manifestement, je me sens inutile. Moi, je fais 50 kilos. Hein.
Ah. Ouais, c'est pas toi qui va. Oui.
Très bien.
Donc, je vais voir dans sa cabine.
Toi, tu vas aller dans la cabine. Pour ceux qui sont encore sur le pont, la mer est agitée. Il fait presque noir total. Vous voyez son corps qui ne flotte pas. Vous voyez, il tombe à l'eau.
À pic.
Et ça tombe.
Oh, mais l'angoisse. Je saute pas, moi.
Bah, on envoie quand même des hommes
le
repêcher.
Ouais, on envoie un canot. Ouais. Un canot
avec l'agitation des mers.
Ou alors, il s'attache. Des mecs attachés.
Ah, ouais.
Parce qu'en fait, le canon risque de percuter la coque du navire. Donc,
oui, il était encordé.
Bah, déjà, on envoie des cordes au cas où il reprend ses esprits. Pour...
Mmh. Ouais. Bah, après, c'est vrai que si on n'a rien pu faire quand il était hors de l'eau.
Ses esprits, j'ai l'impression qu'il les a gardés.
Et oui, nageur, mais
oui, c'est le corps qui
est. Juste peut-être envoyer un nageur encordé. Mmh.
De... Ouais, voilà.
Oh putain, trouver un volontaire là, après ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté.
Ouais, les gens sont un peu blêmes. Hein. C'est qu'est-ce qui s'est passé à un homme qui est parti. Voilà, là, c'est. Le capitaine a été réveillé avec toute cette agitation, il était en train de dormir. Pareil, Isabelle sort de sa cabine avec le capitaine. Les cabines sont proches. Ils sortent sur le pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était ces cris? Et Isabelle qui fait « J'ai cru reconnaître Marc qu'est-ce qui s'est passé ?»
Non, mais les explications plus tard.
Toi, tu vas à la cabine. Toi, qu'est-ce que tu
Moi,
fais
je dis toi, le petit Jean, là. Ouais. Il paraît que tu faisais de la plongée sous-marine. On t'encorde et t'essaies de l'attacher et on va le tracter.
Un vent de tempête comme ça
Il fait nuit.
C'est ouf. Très bien, monsieur, hein, c'est...
Allez, courage. On est avec toi.
Je lui fais boire un petit cliché de rhum.
ça va, le rhum, hein. On se passe calmer.
Double ration.
On n'abandonne pas les hommes.
Ouais. Donc, effectivement, tu vous l'attachez, il s'apprête à aller à l'eau. Toi, tu vas rapidement dans la cabine. Rien d'inhabituel, ces livres sont ouverts, il ne semble pas y avoir de substance particulière.
Je regarde le livre qui est en train de consulter, c'est ouvert sur quoi, vite fait.
T'as lire et écrire. C'est un livre sur les divinités aztèques.
D'accord. Ok, bon, après moi j'en sais pas plus. Je constate rien d'autre, d'inhabituel quoi.
Effectivement, il n'y a pas.
Il n'a rien fait tomber au passage.
Non, ça. Tu trouves rien, même enfin est-ce que tu passes du temps à fouiller?
Non, j'ai pas le temps, je vais être occupée. Ouais. Mais je pense que je ressors, mais je ferme la porte et je la ferme à clé parce que je me dis tu sais pas, on est quand même entre bonnes gens de corsaire et bon voilà, il a pu arriver des vols sur le navire, tout ça. Je pense à fermer à clé la cabine.
Très bien.
C'est moi qui ai la clé.
L'homme va aller à l'eau et Pierre, tu vas lancer un jet de chance pour lui.
Ouais. Donc j'ai de chance, hop. C'est un des 10 de chance?
Non, là il a, on va dire, 30% de chance de tenir.
Donc c'est un des 10,
un des 10, c'est 3 moins 2. 3, ouais, c'est ça.
Une chance sur 10.
3 chances sur 10. Il faut qu'il fasse 1, 2 ou 3.
Ah, ok. Voilà, je fais 6.
Merde.
Il ne remontera pas en vie.
Oh,
merde! Le petit Jean!
Tu l'as envoyé au casse-pipe, le pauvre.
Voilà, état de crise sur le navire, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là-dessus que nous nous arrêtons pour cette partie.
Il faudra le garder la prise de plus tôt.